L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Sans plaisir de vous recevoir, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. D'abord les titres. Une situation de panique s'observe dans la ville de Baraka et Fizi Centre à la suite des bombardements des drones dans le village de Moulima et l'avancée des troupes de la SM-23 Tuaneo dans les territoires de Fizi. Entre-temps, les réactions se multiplient. Par rapport à la rencontre entre le président burundais et une frange de l'opposition congolais, plusieurs analystes estiment que cette énième rencontre relève d'un tâtonnement politique et n'offre pour l'instant aucun espoir pour le peuple congolais. Pendant 7 ans, à Chabonda au sud Kivu, depuis le début de l'année 2026, plus de 2000 cas de rougeole et de choléra ont été enregistrés, avec plus de 500 décès face à cette double épidémie qui frappe les 4 zones de santé de Chabonda. La société civile lance un appel d'urgence aux autorités pour sauver des vies. Le détail dans ce journal. C'est tout pour le titre, mesdames, messieurs. Myriam Mofano, c'est bon, donc je suis à la présentation. Emile Mouindo assure la mise en onde.
Radio Mandeléo, la radio de proximité. Plus c'est mieux pour et avec ses auditeurs.
Nous l'avons annoncé au sommaire, depuis les bombardements dans le village des Moulima et l'avancée des troupes de la SM-23 Tuaneo dans le village Point Zéro dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Il s'observe une situation de panique dans la ville de Baraka et à Fizi Centre. De défenseurs de droits humains dans la zone indiquent que ces événements ont provoqué d'importants mouvements des militaires quittant les zones de combat vers ces agglomérations depuis samedi dernier. Détail à l'Ankabika.
Dans la ville de Baraka, tout comme à Fizi Centre, il s'observe une surmilitarisation avec la présence des militaires FARDC et des combattants Azalendo, dont certains agiraient comme s'ils ne répondaient à aucun commandement. Dans les deux entités, c'est presque tous les jours que des coups de feu sont entendus dans la journée et beaucoup plus dans la soirée. Cette présence massive des militaires est à la base d'une forte psychose au sein de la population locale, indique un correspondant occasionnel joint par Radio Maindeleo. Il confirme néanmoins que les activités à l'instar des marchés, boutiques et pharmacies, qui fonctionnent normalement vers 9h ou 10h, pour fermer entre 16h et 17h, par crainte d'un éventuel retournement de la situation tard dans la soirée. Toute circulation est interrompue à partir de 19h pour les populations qui craignent pour leur sécurité, indique pour sa part une autorité locale contactée. Celle-ci précise que la ville de Baraka, les centres de Fizi et leurs environs ne sont pas sous menace directe car les lignes de front se trouvent dans des zones très éloignées. Entre-temps, les troupes de la F-123 auraient avancé jusqu'à l'endroit dit Chemoulima, un village situé à plus ou moins 50 km de Fizi Centre, avant les villages de Mukera. Du côté des forces armées de la RDC, aucune communication officielle jusque-là, mais des sources à Fizi Centre confirment un renforcement des positions à Mukera et la présence des troupes burundaises qui gardent leur position dans différentes zones aux côtés des forces régulières de la RDC.
J'ajoute Alan Kabika qui, dans une communication du porte-parole des opérations Sokola de Sud-Sud Kivu, il est annoncé que les forces armées de la RDC ont repris les positions stratégiques des Kimete, Wihene et Kashamata dans le haut plateau de Minembwe, territoire de Fizi. Ceci après une rencontre offensive lancée à la suite du repli temporaire de certaines de leurs unités, indique le sous-lieutenant Rigen Mbou. Kalonji. Selon lui, les combattants de la coalition F-123 Tuaneo ont été repoussés vers Rogezi et Bigaragara dans le sud de Minembwe. Pendant ces temps, la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel maintient sa manifestation prévue le 22 juillet 2026, malgré les consultations tenues à Bujumbura avec les présidents burundais et présidents en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye. La plateforme affirme que cette mobilisation vise à demander la démission du président Félix-Antoine Tshisekedi et à s'opposer à toute éventuelle révision de la Constitution qu'elle estime susceptible d'ouvrir la voie à un nouveau mandat présidentiel. À l'issue des consultations, un responsable de la coalition assure que la rencontre n'avait entraîné aucun changement du calendrier de la manifestation. Il indique que les autorités de Kinshasa avaient été officiellement informées du maintien de cette activité et affirme que la médiation d'Evariste Ndayishimiye se déroule avec l'accord du président Félix-Antoine Tshisekedi. Selon lui, la question de la révision de la Constitution a également été évoquée au cours des échanges. Initialement prévue le 8 juillet 2026, la manifestation avait été reportée au 22 juillet afin de permettre la tenue de ces consultations. La C64 affirme avoir participé à ces échanges pour présenter ses préoccupations sur la situation politique
politique institutionnelle du pays. La coalition regroupe notamment Martin Fayulu, Délice Sanga, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabound, ainsi que d'autres personnalités de l'opposition. Les organisateurs ont par ailleurs notifié officiellement au gouverneur de Kinshasa le 4 juillet 2026 de la tenue de cette marche pacifique prévue à partir des 9h en direction du Palais de la Nation pour la remise des mémorandums au président de la République. Il demande aux autorités de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des manifestants.
Et il n'y a rien d'important à entendre des échanges entre le président burundais Evariste Ndayishimiye et une frange de l'opposition congolaise à Bujumbura. Ces assises relèvent d'une énième improvisation et de nouveaux tâtonnements dans un contexte d'existence d'une multitude d'initiatives de recherche de paix qui ont abouti à des résolutions qui demeurent non respectées par les partis. C'est ce qu'indique Elodie Ntamuzinda, ancienne présidente du bureau de la coordination de la société civile de Sud Kivu. Elle estime que cette rencontre n'augure aucun espoir pour le peuple congolais car le politique négocie depuis le début de la crise politico-sécuritaire pour leur propre intérêt. Un lieu place des tâtonnements qui se caractérise par l'activation simultanée des initiatives comme celle de Washington, Doha, Luanda, Lomé et aujourd'hui de Bujumbura. Elodie Ntamuzinda propose plutôt l'organisation d'un dialogue inclusif entre Congolais. On l'écoute dans ses propos recueillis par notre confrère Expedi Kialo.
Nous avons observé d'un côté le gouvernement qui dialogue, entre parenthèses, entre guillemets, avec les rebelles. Et d'autre côté, le Rwanda et le gouvernement, et puis les États-Unis au milieu. Et comme si cela ne suffisait pas, Lomé aussi s'y ajoute, après l'Angola. Et aujourd'hui, on parle du Burundi. Bon, dans tout ça, est-ce que nous pouvons nous situer exactement? Nous en sommes où? Et si cela peut nous apporter la paix, nous devons y aller d'une manière cohérente. Nous devons reculer et dire oui, peut-être nous avons tâtonné, nous avons commis des erreurs, mais qu'est-ce qui ne se corrige pas? Il y a tellement de résolutions des Nations Unies, de déclarations, de communiqués conjoints, il y en a tellement que personne n'y jette un œil. Alors les opposants d'un coup qui commencent des marches, ils sont consultés. Mais est-ce que nous allons dire que ce qui s'est fait aujourd'hui suscite un espoir? Non, il n'y a aucun espoir jusque-là, puisque nous n'avons pas vu là où les choses se préparent aisément, et c'est une nation, nous n'allons pas évoluer comme des associations mallettes ou individuelles ou des poches. Nous sommes une nation et nous devons réfléchir en citoyens normaux en tant que peuple.
C'était là Elodie Ntamuzinda, ancienne présidente du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu. Et parlons santé dans cette édition du journal, plus de 2000 cas combinés des rougeoles et des choléras ont déjà été enregistrés depuis le début de l'année 2026, avec plus de 500 décès dans toutes les quatre zones de santé qui comptent les territoires des Chabunda. Ces chiffres ont été livrés par la coordination de la nouvelle société civile congolaise et confirmés par des sources médicales dans ces territoires au cours d'une interview accordée à Radio Maendeleo lundi 6 juillet 2026. Le président de cette structure alerte sur une situation sanitaire préoccupante et appelle à une intervention urgente des autorités des Chabunda. Notre correspondant Papi Mulingati nous fait les points.
Les quatre zones de santé du territoire des Chabunda sont frappées par les épidémies de toutes sortes depuis le début de l'année 2026. Selon le bureau de coordination de la nouvelle société civile congolaise de Chabunda, l'épidémie de rougeole tue les enfants de moins de 15 ans au jour le jour ici à Chabunda Centre et partout dans le territoire. En plus de cela, il y a l'épidémie de choléra qui vient de s'ajouter au sein de la communauté. Monsieur Pius Walemba, coordonnateur de la nouvelle société civile Chabunda, demande à l'autorité sanitaire, tant au niveau provincial que national, d'intensifier l'intervention sanitaire ici à Chabunda afin de sauver les vies humaines. Pius Walemba.
Dans notre territoire, vraiment, l'épidémie de rougeole bat le corps fort pour les enfants. Nous, comme la population du territoire de Chabunda, nous disons les autorités sanitaires qu'ils nous viennent en aide pour sauver les vies humaines des victimes qui sont ici dans notre territoire. Au niveau de l'Oubila, dans le groupement de Baliga, le choléra aussi est très très fort. Dans notre rivière Olindi, il y a des cas qui sont déjà ciblés et il y a des morts, des hommes qui sont déjà décédés avec cette épidémie de diarrhée, de choléra.
La source médicale à Chabunda Centre, plus de 2000 cas de rougeole sont déjà signalés à l'hôpital général, dont on a enregistré 500 cas de décès. En plus de ça, 22 cas de rougeole ont été signalés, parmi lesquels 2 décès. Depuis Chabunda, Papi Mulingati, Radio Maïnde Léon.
Merci Papi Mulingati. Et la campagne intégrée des vaccinations contre la rougeole, ribéole et la polio en faveur de tous les enfants des 0 à 14 ans sera organisée du mardi 15 au samedi 19 juillet 2026 dans tous les 34 régions de santé qui comptent la province du Sud Kivu. Cette campagne concerne tous les enfants sans tenir compte de leur statut vaccinal antérieur. L'annonce est contenue dans un communiqué de la division provinciale de la santé du Sud Kivu, consulté lundi 6 juillet 2026 par la rédaction des radios Maïnde Léo, signée par le chef des divisions provinciales de la santé ad intérim, le docteur Michel Maneno. Ce document rappelle que la rougeole, la ribéole, la poliomyélite sont des maladies très contagieuses qui exposent les enfants à des graves complications lorsqu'ils ne sont pas correctement vaccinés. La division provinciale de la santé indique que la République démocratique du Congo continue d'enregistrer des épidémies de ces trois maladies depuis plusieurs années, une situation qui représente une menace pour la santé des enfants et qui justifie le renforcement de la vaccination. Les parents des enfants âgés de 0 à 14 ans sont ainsi appelés à participer massivement à cette campagne. Ils sont invités à conduire leurs enfants dans les centres de santé ou les sites fixes de vaccination le plus proche qui leur sera indiqué par les relais communautaires. Les autorités sanitaires précisent que la vaccination sera entièrement gratuite. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal aussi Radio Maïnde Léo. Merci de nous rester fidèles.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est Radio Maïnde Léo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Changeons de chapitre à présent. Plusieurs coins de la ville de Bukavu risquent de devenir invivables suite à une forte présence d'état des déchets qui restaient des semaines entières sans être évacués dans la commune du Banda particulièrement. Plusieurs ronds-points ou espaces non construits sont désormais transformés en espaces d'entreposage des déchets. C'est entre autres les quartiers d'Indéré, plus précisément Anyawera et Lakat, Mukuku et quartier Latan et l'ensemble de la cellule Muungu ainsi que dans les quartiers Nyalukemba, précisément les longs des routes secondaires dans plusieurs avenues comme Albert Kayabou, cimetière 6, paysage de la montagne et hippodrome. N'est-ce pas Omer Moudekereza?
Dans plusieurs messages d'alerte parvenus à la rédaction des radios Maïnde Léo, les habitants se plaignent du fait que les structures concernées continuent de percevoir les frais d'assainissement en leur indiquant les sites de transit des déchets. Malheureusement, indique-t-il, les programmes d'évacuation ne sont pas respectés, une situation qui fait à sec que de montagnes de déchets se forment, transformant les avenues habitées non en sites de transit, mais en dépotoirs permanents. Pour Daniel Mouroula, chercheur en gouvernance et gestion des ressources naturelles, il faut que les autorités pensent à la mise en place des mécanismes efficaces de gestion des déchets et d'assainissement, ainsi qu'à l'élaboration des politiques environnementales durables. Pour lui, cette accumulation s'expliquerait par les difficultés logistiques des entreprises chargées de la collecte des déchets, le manque de personnel qualifié, l'insuffisance des équipements d'évacuation et le nombre limité d'entreprises spécialisées. Il recommande d'accroître les investissements dans les secteurs de l'assainissement, d'augmenter le nombre d'entreprises spécialisées, de favoriser le recyclage et la valorisation des déchets, mais aussi de renforcer les partenariats publics-privés. Daniel Mouroula.
Ces entreprises doivent nécessairement aussi prendre conscience parce qu'on ne les fait pas gratuitement. C'est l'argent, chaque ménage paye 5 dollars. Ces entreprises doivent avoir des équipements, un personnel qui est qualifié, les matériels, il faut bien équiper ces gens. Mais aussi, il ne s'agit pas aussi de collecter seulement les déchets et aller les abandonner n'importe où. Parce que dans la chaîne de valeur des déchets, il faut d'abord une collecte sécurisée. Les déchets doivent être triés pour savoir quels sont les déchets dégradable, non dégradable. Dernière étape, c'est la transformation. Parce que ces déchets doivent être recyclés. Si on parle des principes des 3 R de gestion, il y a la réutilisation, le recyclage des déchets, ainsi que les réemplois.
Seule une action concertée entre autorités, entreprises spécialisées et citoyens permettra de relever les défis de l'assainissement et d'améliorer le cadre de vie des habitants de Bukavu, indique-t-il. D'autres acteurs recommandent à l'autorité de favoriser le suivi des organisations affectées à ce travail afin qu'elles ne puissent pas uniquement être là pour collecter les fonds et non réalisant un travail de qualité sur le terrain.
Merci Omar Moudekereza. Et une commission vient d'être mise en place pour sensibiliser la population sur des bonnes méthodes à adopter dans la lutte contre les incendies dans les quartiers d'Indéré en commune du Banda, surtout en cette période de saison sèche. C'est ce qu'indique les chefs des quartiers d'Indéré, le pasteur Miga Bonyagaza Albert, dans un entretien accordé à Radio Maïnde Léo lundi 6 juillet 2026. Ces derniers soulignent que les membres de cette commission ont pour mission de sensibiliser la population sur les dangers des procédés à des installations installations électriques dans leurs maisons sans expertise, la gestion des bonbons des gaz ainsi que la garde de produits inflammables dans les maisons d'habitation. Il lance une mise en garde à l'encontre de responsables de famille qui laissent aux enfants la responsabilité de cuire les aliments. Ces gardes des bases appellent ainsi ses administrés à la vigilance pour prévenir des cas d'incendie au quartier d'Indéré, en particulier et dans la ville de Bukavu en général. Le pasteur Miga Bonyagaz Albert en parle.
Nous avons envoyé les sensibilisateurs dans notre quartier pour sillonner les avenues, de demander aux ménages de bien gérer les sources d'énergie, surtout les carburants, rasero, bougies, bonbons de gaz, panneaux solaires et des batteries. Ne pas s'improvisionner électricien, ne doit pas manipuler les installations électriques pour aborder une matière, il faut être sûr de la maîtrise. Les fils électriques doivent être adaptés, bien isolés, des sections conformes aux charges pour ne pas perdre les biens. Vraiment, les incendies que nous avons enregistrés dans notre quartier étaient dus à une mauvaise manipulation des câbles électriques par les jeunes qui veulent apprendre en touchant les câbles et aussi les bras zéro laissés aux enfants pour la cuisson. Je pense que si nos parents peuvent se mettre et surveiller l'installation dans les maisons, nous pouvons nous épargner des dangers, des catastrophes que les autres vivent dans les quartiers, dans les autres avenues. Nous devons franchement bien surveiller toutes les sources d'énergie dans nos maisons.
C'était la Miga Bonyagaz Albert, chef du quartier de Ndéré. Et avec vous, Alain Kabika, la poursuite de la construction des églises, les écoles et structures sanitaires de l'église anglicane, l'inauguration du nouveau diocèse anglican du lac Tanganyika avec Uvira comme siège, c'est parmi les priorités que se fixe l'église anglicane pour les 3 prochaines années. Ces priorités ont été annoncées à la clôture du synode ordinaire organisé à Bukavu par l'église anglicane diocèse de Bukavu du 3 au 5 juillet 2026.
Pour l'évêque de l'église anglicane diocèse de Bukavu, Mgr Bahati Balibusane Sylvestre, les travaux du synode ont permis de conclure que les activités prévues pour les années écoulées ont été réalisées à plus de 80% malgré les contextes sécuritaires. Il salue les efforts fournis par les chrétiens de l'église anglicane pour parvenir à ces résultats. Au sujet de la planification pour les 3 prochaines années 2026, 2027 et 2028, Mgr Bahati Balibusane Sylvestre annonce la création de nouvelles paroisses, les archidiaconés et ou districts qui regroupent un ensemble de paroisses ou districts. On l'écoute.
Malgré la situation difficile dans laquelle nous évoluons pour le moment, l'église a réalisé plus de 80% de nos activités que nous avons planifiées. Les problèmes étaient toujours l'insécurité et aussi la guerre ne nous ont pas permis de pouvoir réaliser à 100% les activités que nous avions planifiées. Nous avons également planifié d'autres activités pour les 3 années à venir. Dans ce synode, nous avons aussi également élu des candidats, prêtres, candidats évêques qui seront présentés au collège des évêques, parce que c'est le collège des évêques qui élit l'évêque anglican. Les activités que nous avons planifiées, d'abord c'était la croissance de l'église, nous avons créé de nouvelles paroisses et aussi nous avons dit que nous allons continuer à construire nos églises qui ne sont pas encore en matériaux durables et nos centres de santé pendant les 3 années à venir. Nous allons aussi inaugurer le nouveau diocèse du lac Tanganyika pour ces 3 années à venir.
L'activité s'est tenue à la paroisse anglicane Saint-Pierre, située à l'essence Major Vangu au quartier d'Indéré, dans la commune d'Ibanda, en présence de plusieurs chrétiens anglicans et des invités.
Et je vous prends Hélène Boudjiriri. Le complexe scolaire Adora a réalisé un taux de réussite de 100% à l'école maternelle, 94% à l'école primaire et 88% à l'école secondaire pour l'année scolaire 2025-2026. Ces résultats ont été rendus publics le week-end dernier lors de la cérémonie des proclamations marquant également la clôture de l'année scolaire au sein de cette école privée agréée.
À cette occasion, le promoteur de cette école, Patient Bagalwa Koko, s'est dit satisfait des résultats obtenus cette année en dépit de la crise sécuritaire et économique qui touche la population actuellement. Il remercie les corps enseignants, les parents et les élèves pour les efforts consentis au cours de l'année et qui ont permis de réaliser ces scores. Patient Bagalwa Koko indique que son établissement n'intervient pas seulement dans l'éducation scolaire des enfants, mais se rassure également de leur bien-être, d'où la séance de counseling organisée chaque matin en faveur des élèves afin de les accompagner pendant cette période particulière. Il en parle.
Au regard des péripéties avec lesquelles on a conduit cette année scolaire, des péripéties liées à la situation sécuritaire, à la situation économique, le score abattu par nos enfants et nos enseignants, comme satisfaction et au zénith. Nous sommes battus pour que notre école représente un modèle parce que au niveau de la pédagogie, nous sommes une référence. Le deuxième défi, c'était la stabilité de nos enfants traumatisés par des événements, mais qu'il fallait stabiliser. C'était un grand défi pour nous.
En termes de perspectives, le complexe scolaire Adora compte digitaliser les enseignements donnés en son sein. À en croire les promoteurs, des caméras seront placées dans des salles de classe, ainsi permettre aux parents de faire les suivis du comportement de leurs enfants à l'école et pouvoir les accompagner une fois à la maison. Le collège Adora est situé à Panzi Mulengeza et organise à son sein l'école maternelle, primaire et secondaire avec la section pédagogique, sociale, scientifique, construction, commerciale de gestion et électricité générale.
Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, le club des filles reporters CFRRDC lance un nouvel appel aux autorités, aux partenaires techniques et financiers, aux organisations humanitaires afin de renforcer l'assistance en faveur des populations déplacées dont les besoins restaient largement supérieurs aux ressources actuellement disponibles. Cet appel a été lancé dimanche 5 juillet au terme d'une activité d'assistance à kit hygiénique aux femmes déplacées internes du camp des Mukongola, situé dans le village des Bukanga, en chefferie des Buloho, au territoire des Calais. Les bénéficiaires sont 45 jeunes filles, 10 femmes âgées et vulnérables, ainsi que 5 femmes ayant récemment accouché. Les bénéficiaires ont reçu des kits composés notamment des savons, des brosses à dents, des sous-vêtements, des seaux et des bandes hygiéniques réutilisables, des couvertures pour bébés et des bâches. Selon Simon Mihona, coordonnateur du club des filles reporters, cette assistance vise à contribuer à l'amélioration de leur hygiène, de leur dignité, mais aussi des conditions de leur hébergement. Simon Mihona rappelle toutefois que les besoins restaient considérables. Il souligne que de nombreuses autres femmes, filles, enfants et personnes vulnérables vivant dans les camps des déplacés et les familles d'accueil du territoire des Calais continuent de faire face à une situation humanitaire critique.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maëndéléo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, disons que la Coupe du Monde 2026 poursuit son déroulement avec la suite des huitièmes de finale. Après les qualifications de l'Angleterre, de l'Espagne et de la Belgique, les deux derniers billets pour les quarts de finale se joueront ce mardi. L'Argentine affrontera l'Égypte à 18h, heure du Bukavu, avant les duels entre la Suisse et la Colombie à 22h. La Belgique a validé son ticket pour les quarts de finale en s'imposant largement 4-1 face aux États-Unis. Charles s'est illustré avec un doublé, tandis que Hans Van Eken et Romelu Lukaku ont également trouvé les chemins défilés. La veille, l'Angleterre avait éliminé le Mexique sur les scores de 3-2, tandis que l'Espagne s'est imposée en 0-1 face au Portugal grâce à une réalisation de Michael Merino dans le temps additionnel. Les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale seront connus à l'issue des rencontres de ce mardi qui opposeront l'Argentine à l'Égypte, puis la Suisse à la Colombie.
La revue de presse. Radio Maïndéléo Capt vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Les effets de la fermeture de banques sur le vécu quotidien des habitants du territoire des Cabarets ou à Lungu au sud Kivu et les refus de billets en dollars américains légèrement marqués à Uvira font partie des sujets commentés par la presse lundi 6 juillet 2026. Hélène Boudjeriri pour la revue de presse.
Débutons cette revue de presse par Jamboya RDC qui écrit « Les parents sont appelés à mieux encadrer leurs enfants pendant les grandes vacances scolaires ». À Bukavu, les communicateurs du mouvement de la société civile du Congo, Archimède, bienvenue, approché par ces médias, estime que le manque de suivi expose les enfants au vagabondage, aux mauvaises fréquentations et à d'autres comportements qui peuvent compromettre leur avenir. De leur côté, les défenseurs des droits humains recommandent aux parents de surveiller de près les déplacements de leurs enfants, d'éviter de les laisser circuler seuls et de les accompagner lors de certaines activités, notamment lorsqu'ils vont chercher de l'eau, afin de prévenir les cas de noyades et d'autres accidents. Enfin, Archimède Bienvenue invite les parents à profiter de cette période de vacances pour inscrire leurs enfants à des activités éducatives, culturelles ou créatives, afin de développer leurs talents et d'occuper utilement leur temps libre. De son côté, estnews.info indique qu'à Uvira, les refus des billets en dollars américains légèrement marqués, usés, ou portant un simple cachet bleu, perturbent de plus en plus les transactions quotidiennes. Bien que ces billets conservent leur valeur légale, ils sont rejetés par plusieurs secteurs, notamment les marchés, pharmacies, hôpitaux, agences de transport, stations-service, établissements scolaires et commerces. Des témoignages recueillis par ces médias rapportent également que plus de 700 dollars ont récemment été refusés dans un guichet RTL Monnaie. Cette pratique a des conséquences importantes pour la population. Certains habitants déclarent avoir été contraints de vendre leurs billets à des taux très faibles ou de renoncer à des achats essentiels, subissant ainsi des pertes financières. Les phénomènes alimentent un climat d'incertitude et compliquent la circulation de la monnaie dans une ville déjà confrontée à des difficultés économiques. Face à cette situation, les habitants demandent aux opérateurs économiques de mettre fin à cette pratique qu'ils considèrent comme une forme d'exclusion monétaire, aggravant ainsi la précarité des ménages. Bouclons cette revue de presse par kivutimes.com qui indique qu'à Kamagnola, dans les territoires de Walungu et à Kabare au sud Kivu, la fermeture prolongée des banques, coopératives d'épargne et des crédits ainsi que des institutions de microfinance continue de provoquer de graves difficultés d'accès aux services financiers. Plus d'un an après leur fermeture liée à la dégradation de la situation sécuritaire, de nombreux ménages ne peuvent toujours pas accéder à leur épargne ni obtenir des crédits indispensables à leurs activités économiques. Cette situation affecte fortement les petits commerçants et les familles. À Kamagnola, plusieurs acteurs économiques expliquent que la disparition des coopératives a supprimé une source essentielle de financement pour leurs activités génératrices de revenus. Dans les territoires des Kabare, de nombreux membres des coopératives affirment avoir perdu l'accès à leur épargne, tandis que les possibilités de crédit ont quasiment disparu, entraînant l'abandon des projets et la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Les conséquences sociales sont également importantes, avec des difficultés accrues pour la scolarisation des enfants et la satisfaction des besoins alimentaires des bases. Pour les populations locales, le retour de la paix reste une condition essentielle à la réouverture de ces institutions financières, concluent ces médias.
Communiqué avant la fin de cette édition du journal, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Full Gospel, Pôle du Sud Kivu, informe les habitants de Bukavu et ses environs qu'il organise sa 18e convention dans la salle Marie-Reine sur avenue de Latiné du 7 au 9 juillet 2026, des 14h30 à 17h30 sous les thèmes Porte du Fruit, Accélère et Perse, tiré de Jean 15-16. Venez nombreux pour louer et adorer notre Créateur et Sauveur de l'humanité. Soyez les bienvenus. C'est les bureaux des conventions du Pôle 10 qui signent le présent communiqué. Et voilà ce qui met fin en cette édition du journal, mesdames, messieurs, présentée par Myriam Mamofano et Emile Moïdo sur la mise en onde. Au revoir et prenez soin de vous.